troisième numéro donc de cette émission consacrée à Montpellier Danse, troisième épisode, à presque une semaine de festival, pas tout à fait maintenant. Vincent Pourrageau est avec moi pour parler des spectacles qu'on a vus, des spectacles qu'on va voir et des interviews qu'on a pu recueillir au cours de ces jours de festival. Hier soir, Vincent, nous étions ensemble au théâtre de Gramont pour aller voir la première représentation de Tout va bien d'Alain Buffard, qui joue encore ce soir. Qu'en as-tu pensé tout d'abord ?
Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était pas, alors pas seulement de la danse et presque pas essentiellement de la danse, parce qu'on a affaire à des mouvements, plus que, enfin, des mouvements d'ensemble quand même, mais voilà, c'est plus une combinaison du théâtre, du chant, voilà, et puis une chorégraphie d'ensemble avec une scénographie, enfin, c'est plutôt bien. Moi, j'ai plutôt apprécié ce spectacle avec des artistes notamment très complets, voilà.
Très polyvalent, 8 personnes sur scène. On en reparle juste après ce court extrait d'une conférence de presse que donnait Alain Buffard la semaine dernière, entrecoupé d'extraits du spectacle qu'on a vu hier.
Il y a des choses très 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 drôles et à la fois, enfin, un peu comme toutes mes pièces, il y a des choses très à la fois très très violentes et très tendres tout de suite après. Il se trouve qu'aujourd'hui on vit quand même dans une république autoritaire, on essaie de mettre au pain tout le monde, on donne plus d'argent à l'éducation, à la culture, etc. Et en même temps, je me sens pas missionné de faire un spectacle militant, et enfin, ce que je n'y crois pas, c'est juste une vision du monde qui est suffisamment polymorphe pour permettre au public, à chacun des personnes qui est en face, de faire sa propre histoire à l'intérieur de chacune des séquences. C'est une pièce extrêmement fournie, il y a beaucoup, beaucoup de matériaux, donc ça chante aussi. Ça parle beaucoup aussi. J'y crois vraiment de plus en plus, c'est une pièce assez théâtrale. Donc il y a pas mal de dialogues. Il y a encore une fois, je travaille évidemment avec les langues maternelles des danseurs, donc... là, il y aura de l'hébreu, du français, pas mal d'anglais, un peu d'allemand. Comme dans toutes mes pièces, c'est une espèce de... Il y a cette figure récurrente qui est absolument dans toutes les pièces, qui est la figure du chien. Alors, on a eu des chiens chics, toilettés dans notre leçon, des chiens méchants dans Les Inconsolés. Il y a un autre type de chien, vous verrez demain ou après-demain. Il y a une espèce d'écriture cinématographique qui m'a toujours intéressé. Et là, je crois que je l'ai mise en œuvre véritablement. Aujourd'hui, la différence, le système coercitif est un peu différent des années 60. Moi, je suis né en 60, donc je ne connais pas, évidemment, je n'ai pas vécu cette période-là. Aujourd'hui, il me semble que c'est beaucoup plus pervers, hein, de voir des méga écrans de télévision partout sur les terrasses aujourd'hui, et voir des foules entières se fader des matchs de foot, hein, et ne pas penser à autre chose. Pour moi, ça fait partie aussi de ce système-là, de comment on fait. Après, le foot, c'est très bien, ça ne m'intéresse pas, mais pourquoi pas. Mais il y a tout un système de valeurs marchandes, de de l'économie en fait, et de comment on rentre, on crée des besoins tout simplement, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est pris, mais même sans le savoir, moi y compris. Hein. Du coup, on baisse tout simplement les bras, que ce soit sur l'histoire de retraite, qui est quand même gravissime, ce qui se passe en ce moment, sur toute la transformation de l'éducation, de la maternelle à l'université en France, où on coupe tous les savoirs, hein. Je ne parle même pas de la recherche, je ne parle même pas du système médical. Je veux dire, on fait des nouvelles lois pour le moindre fait divers, mais on cherche pas en arrière de savoir qu'il n'y a plus de psychiatrie en France et qu'effectivement on commence à avoir des personnes qui sont très limites dans la rue et qui peuvent être dangereuses, et que la seule solution c'est d'être dans les prisons. Vous savez aussi bien que moi tout ce qui se passe dans ce pays que j'aime malgré tout, mais je suis plutôt pessimiste et très triste. Pour le système de coercitif aujourd'hui, il est, jusqu'alors on vit dans un pays, dans beaucoup d'autres pays, dans un pays raciste, qui était un racisme latent. Aujourd'hui le racisme il est patent. Et voilà, je dis des choses par rapport à ça. J'essaie de me positionner par rapport à ça sans sans donner de la moindre leçon. Je donne aucune solution, je donne juste des points comme ça, des situations qui peuvent être parfois assez dures, et ce qui m'intéresse effectivement c'est de voir comment on peut y répondre. Fondamentalement, ce que je pense, c'est je crois tout simplement à une discipline intérieure. Point barre. Je crois que le travail d'un artiste, ce n'est que ça, ce n'est que du déplacement de signes. Hein. En tout cas, le travail sur les signes, c'est effectivement, le travail d'un artiste, c'est aussi proposer une certaine vision du monde. Voilà, et celle-ci aujourd'hui, tout va bien. Sur les grippages, je reste dans mes lectures de chevet Foucault, avec Survivre et punir, avec l'histoire de la folie, de la sexualité, etc. Où effectivement, je pense que les seuls retournements possibles, c'est être au sein même du nœud, là où ça coince, là où ça fait mal, là où effectivement le système coercitif est en place, pour pouvoir, avec des petits signes, je crois vraiment à la valeur du petit signe, autant sur le plateau que dans la vie. Je pense que c'est une histoire d'attitude aussi. L'attitude, elle est artistique, elle est effectivement signée sur un plateau, mais j'espère bien l'avoir aussi par ailleurs. Et en tout cas, ça permet de dire des petites choses, et je pense que c'est que les petites choses qui peuvent faire déplacer et éventuellement faire changer des choses.
Voilà un son de conférence de presse, donc un son pas terrible. On sait que c'est très attaché à la qualité du son, Vincent. Alain Buffard répondait aux questions de Agnès Izrine, Gérard Mayen, Valérie Hernandez et Henri Turlan, entre autres. Conférence de presse qui a eu lieu vendredi dernier. La première représentation, donc, c'était hier soir pour ce Tout va bien, une pièce qui dénonce, comme le disait Alain Buffard à l'instant, toute forme de système autoritaire et coercitif, avec cette espèce de métaphore guerrière et militaire qui sert de fil rouge. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une pièce antimilitariste, puisque le système coercitif, selon Buffard, s'étend bien au-delà, à la famille par exemple, aux normes sociales, à toutes les idées préconçues toutes les sortes de vexations dont sont victimes parfois des minorités, qu'elles soient sexuelles ou raciales, mais aussi tout un chacun. Dans la conférence de presse aussi, il dénonçait le fait que les gens de couleur, par exemple, soient très peu présents dans les compagnies de danse, contemporaines en tout cas, et plutôt cantonnées, on le verra peut-être un peu plus tard avec Kader Atou, au style hip-hop ou au style comédie musicale, show télévisé, ce genre de choses. Raison pour laquelle il a tenu à faire figurer dans son casting trois personnes métisses. Il y a un moment très fort aussi dans cette pièce, justement, où ces trois personnes-là se mettent à danser
de manière... À l'africaine.
À l'africaine, oui. Ouais, sous le regard un peu moqueur des autres, et puis il y a tout d'un coup un silence avec l'une de ces trois personnes qui dit: alors, on vous a bien fait marrer. Donc voilà,
c'est vrai qu'il y a pas mal de distance dans ce spectacle. Ça avance avec des critiques, alors sur effectivement le racisme, il y a même moi j'ai eu le sentiment d'avoir des bizutages, voilà, il y a une violence verbale comme ça, et puis il y a toujours ces gestes, hein, on l'a entendu aussi dans les sons que tu as pris, c'est-à-dire que ça tape
avec des pieds de micro
qui figurent, alors soit des fusils, ça commence comme ça, quoi. Ouais,
soit des ustensiles plus ou moins sadomaso parfois.
Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est plein de scénettes, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait, hein, parce qu'on passe d'un décor à un autre. Alors là, j'ai entendu qu'il a parlé cinéma, effectivement, oui, c'est pas faux.
Oui, une référence à Full Metal Jacket de Kubrick qui est
aussi avec la reprise des chansons, présente dans ce grand film qui est Full Metal Jacket et qui pointe l'antimilitarisme. Même si la pièce, tu l'as bien dit, n'est pas simplement de l'antimilitarisme, mais reprend sans doute les thèses de Foucault qu'il a aussi citées, effectivement.
Et puis il y a une espèce d'empathie comme ça pour chacun des protagonistes qui sont tour à tour victimes ou bourreaux selon les situations. Puis voilà, il y a quelque chose d'assez enfantin aussi dans cette pièce, j'ai trouvé par moments. Justement dans la distance qu'il peut mettre parfois dans le fait de dire finalement tout ça n'est qu'un jeu, avec les danseurs qui finalement reprennent une contenance en disant allez, c'est pour rire, ou allez, voilà. Une espèce de mise à distance comme ça qui était assez intéressante. Et puis, rapport aussi à l'enfance par rapport aux frustrations et aux vexations dont se rendent coupables parfois les parents. La pièce d'ailleurs débute de cette manière-là, avec un père qui habille son fils, je crois.
Ça c'est repris d'ailleurs à d'autres moments, hein. Il y a toujours des habillages, il y a du déshabillage avec là d'ailleurs une espèce d'uniformité entre les danseurs qui au bout d'un moment se retrouvent tous avec des portes-jartelles, alors que ce soit filles ou garçons. Il me semble qu'il y a plus de filles quand même, hein, dans les danseurs.
Cinq filles et trois garçons, je crois bien.
Voilà. Mais tous se retrouvent au bout d'un moment en porte-jartelles, complètement désexués en fait.
Un des choix d'Alain Buffard, un thème récurrent aussi dans ses pièces, le jeu sur les genres aussi. Pour Alain Buffard et ce très très recommandable Tout va bien, qui est encore à voir ce soir au Théâtre de Gramont, et pour lequel il nous reste deux invitations à vous faire gagner, figurez-vous. Pour cela, il suffit d'appeler le 04 67 66 33 33, 04 67 66 33 33 pour aller voir Alain Buffard ce soir au Théâtre de Gramont. Hier, tu as également rencontré Kader Atou.
Oui, effectivement. Alors, Kader Atou qui est arrivé déjà depuis samedi pour préparer donc son nouveau spectacle qui s'intitule Symphonia Piesni Jalonich, qui est le titre donc d'une symphonie, la troisième symphonie d'un compositeur qui s'appelle Gorecki, voilà, qui est polonais, qui est encore vivant, que Kader Atou a rencontré en Pologne, c'était en février. Alors il a commencé à travailler sur cette pièce déjà, c'était l'été dernier, avec ses danseurs. Il a fait un choix assez fidèle à ce qu'il fait d'habitude, parce que Kader Atou vient clairement du milieu hip-hop, depuis toujours, et il essaie à chaque fois de mettre dans ses spectacles des danseurs qui viennent de la danse Kathak, du Bharatanatyam, donc de la danse indienne. Forcément, il y a ces danseurs de hip-hop, et puis il a une franche dose de contemporain. Donc ça, c'est tout le boulot de Kader Atou, de mélanger les genres et puis d'aller vers les frontières. Alors ce qui est très étonnant cette fois-ci, c'est que on l'avait vu il y a un an dans petitehistoire.com, qui était un retour sur son enfance, avec là encore un film qui prenait un peu le rythme du cinéma, avec des petites scénettes comme des petits courts-métrages. C'était assez éblouissant, avec une bande-son qui allait de Bach à la musette en passant par le hip-hop. Et là, finalement, il se retrouve dans un... dans une toute autre atmosphère avec un chant plaintif, donc cette troisième symphonie. Voilà, donc ça va être quelque chose de forcément étonnant. On va l'écouter effectivement en parler.
Je suis Kader Atou, danseur chorégraphe de la compagnie Acrorap et actuel directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle.
Alors, vous êtes ici présent à Montpellier Danse pour une création. Alors, une création qui sort un peu de votre travail habituel, hein, parce que la dernière fois que vous êtes venu à Montpellier, c'était pour petitehistoire.com, une pièce poétique avec beaucoup d'émotions qui revenait sur votre enfance et des musiques découpées. Alors, ça pouvait être du hip-hop, ça pouvait être Bach, mais là, vous avez pris à bras-le-corps, vous êtes rentré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une symphonie qui vous suit depuis 14 ans. Alors, présentez-nous cette symphonie au titre un peu compliqué quand on est français.
La symphonie en question, c'est celle de Henri Górecki, qui est l'un des trois grands compositeurs polonais, qui a créé en 1976 la symphonie numéro 3, en fait. C'est une symphonie lente sur trois mouvements. Et c'est une symphonie, c'est une lamentation, en fait, qui dure à peu près une heure, en fait. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, il y a quelque chose de... Oh ! Je me souviens en tout cas, mais comme si c'était hier, la première fois quand j'ai écouté cette œuvre-là, ça m'a bouleversé, littéralement bouleversé. Je suis passé sur des états de corps pas tristes, mais je dirais à la frontière de la mélancolie ou de la tristesse, à des choses très joyeuses en tout cas, et avec quelque chose de profondément optimiste, avec de l'espoir. En tout cas, c'est ce qu'elle me renvoyait, cette symphonie. Et je me suis dit à ce moment-là que je ferais quelque chose dessus un jour. Ça a pris 14 ans, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai senti tout simplement que c'était le moment. Évidemment, je me suis intéressé à cette personne, Górecki, à ce monsieur. Dans les premiers écrits que j'ai pu lire, j'ai senti qu'à l'intérieur de ce monsieur-là, c'était un grand humaniste. Ensuite, je me suis intéressé à l'œuvre en question de manière un peu plus profonde, c'est-à-dire dans quel contexte il l'a écrit, pourquoi, quelle a été sa recherche première, la construction, je dirais, structurelle même de la symphonie, etc. Et plus j'ai avancé dans ce genre de travail, de cette recherche, plus je trouvais ça extraordinaire. Là, en fait, je me suis décidé, il y a un peu plus d'un an et demi, justement, après petitehistoire.com, de me lancer dans ce travail-là.
Alors, vous dites lamentation. Alors, quand on entend lamentation, on se dit ça va être extrêmement triste. Alors que votre danse ne l'est pas forcément. Alors, comment vous avez rendu les choses un peu plus joyeuses?
Alors déjà, premièrement, les coups de cette symphonie, on n'est pas submergé par quelque chose de très triste, en tout cas. On est submergé par des émotions qui sont parfois des fois inqualifiables. Alors, on ne sait plus où on est, des fois. On est sur quelque chose, des fois, ça ressemble un petit peu à No Man's Land. Des fois, on sent... C'est bête, parce que... Ça, c'est, je parle de moi, mais du coup, je le vois chez les autres, en tout cas, sur les écoutes de la symphonie, quoi. C'est pas une symphonie triste. C'est une symphonie... optimiste. C'est lui-même qui me l'a dit, parce que j'ai rencontré ce monsieur au mois de février dernier, quoi. Il m'a dit, c'est une œuvre optimiste, c'est une œuvre portée d'espoir. Et en tout cas, la chorégraphie, la danse, je l'ai inscrite en tout cas dans cette veine-là des choses. Dans la troisième symphonie, on oscille musicalement sur deux modes, le majeur et le mineur. Pour ceux qui ne savent pas, le majeur en musique, c'est ce qui symbolise la gaieté, la joie en tout cas, quelque chose, la lumière. Et le mode mineur, c'est le contraire, c'est-à-dire les ténèbres, le côté sombre, la tristesse. Et en fait, du début jusqu'à la fin, on oscille entre ces deux modes-là, c'est-à-dire c'est un va-et-vient constant entre le mineur et le majeur. Alors on a l'impression vraiment que c'est, comment dire, une vraie quête humaine en tout cas, quelque chose de voilà, pour quelque chose qui est en constante élévation en plus, pour qu'à la fin, dans le troisième mouvement, se décline de manière nette, précise, et on ne peut pas revenir en arrière, le côté majeur, c'est-à-dire l'espoir, quoi. Donc on est traversé en tout cas par une succession de choses, d'émotions, entre ces deux choses-là, ces deux univers, ces deux mondes, et avec les corps, en tout cas avec les danseurs, parce qu'on est 10 sur ce plateau, j'ai essayé en tout cas de retranscrire mes émotions, moi, personnelles, et surtout aussi les émotions des danseurs, quoi.
Alors vous aviez commencé le travail avec vos danseurs, travail d'improvisation déjà durant l'été, vous l'avez rencontré en février, donc quelques mois après. Qu'est-ce que ça a changé cette rencontre? Alors d'un point de vue personnel, on l'a compris, c'était fort, mais pour votre travail de chorégraphe?
Ça m'a fait que conforter dans ce que je sentais en tout cas, de ce que j'avais envie de faire. C'est étonnant parce que je ne veux pas dire qu'on se ressemble beaucoup avec Gorecki, mais on a énormément de similitudes en tout cas, quoi. Et c'est vrai que tout le travail chorégraphique que j'ai commencé avec eux l'été dernier, ce n'était que les prémices en fait d'un ressenti, d'une intuition en tout cas, de corps, de communauté de corps dans lequel j'avais envie d'aller, quoi. Et le fait de l'avoir rencontré, évidemment ça a changé humainement pour moi les choses, la donne, mais chorégraphiquement ça m'a aidé en tout cas à me sentir un peu plus libre du coup. Parce que... voilà, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes, enfin des anonymes, beaucoup de personnes associées à cette œuvre-là, à un moment tristement célèbre, qui est la Shoah. En fait, Gorecki, il n'a absolument pas du tout créé cette œuvre-là en hommage direct à cette part d'histoire-là, quoi. Et c'est vrai que, voilà, le fait de l'avoir rencontré, voilà, ça m'a permis en tout cas de me détacher de cela aussi. Parce que même moi, à un moment donné, j'aurais pu rentrer dans une... Dans une inspiration directe avec ça. Ça a été le cas dans la création, mais pas de manière, forte et principale en tout cas. Voilà, donc le fait de l'avoir rencontré, j'essaie ensemble, parce que lui-même, il ne sait pas pourquoi les gens associent cette œuvre-là à la Shoah, quoi, mais... voilà, parce que peut-être parce que dans sa symphonie, il en parle en filigrane, c'est-à-dire dans le deuxième mouvement, c'est-à-dire qu'il a pris trois textes, Gorecki, et dans les trois mouvements, il y a la soprano, Da Hübscho, qui décline ces trois textes, qui ont un lien direct avec ce que Gorecki avait envie de dire. Et dans le deuxième mouvement, on est sur Elena, 18 ans, on est en pleine guerre, seconde guerre. Elle est emprisonnée par la Gestapo à Zakopane et elle avait inscrit sur les murs de sa cellule un message à sa mère qui commençait par ces mots en disant « Maman, ne pleure pas », suivi d'une prière à la Sainte Marie, quoi. C'est le seul lien qu'il y a avec la Shoah, en tout cas. C'est le seul lien dans cette symphonie qui se rattache à cette part d'histoire. Tandis que Gorecki, dans les trois mouvements, dans les trois textes, il s'est attaché en tout cas sur une idée tout autre, qui est celle d'un lien, d'une conversation, d'une relation entre une mère et son enfant. Et c'est vrai que dans le chant, dans le premier texte, dans le premier mouvement, on est sur un chant religieux, une lamentation du monastère de Lysagore, c'est-à-dire moitié du XVe siècle. Et lorsqu'on découvre les textes, ça parle d'une mère, de son enfant, etc. Dans le deuxième mouvement, je viens de le dire, Elena, ce message à sa mère. Et dans le troisième mouvement, on est sur un chant populaire de la région d'Opole, dans le sud de la Pologne. C'est un chant traditionnel polonais qui raconte l'histoire d'une mère qui recherche ses enfants à la guerre, quoi. Donc on s'inscrit en tout cas vraiment dans ce lien-là.
Ça se termine, le troisième mouvement, vous l'avez dit, hein, c'est celui-ci qui est en majeur surtout, hein, qui donne cette note d'espoir ou de joyeuseté, si on veut.
De lumière.
Alors, est-ce que ça ne correspond pas mieux, finalement, à la danse hip-hop que vous pratiquez? Est-ce que le hip-hop n'est pas quand même cette espèce d'exubérance?
Oui, si on prend le fondement de cette danse-là, ça a été dès le départ quelque chose, comment transformer quelque chose de négatif en positif lorsqu'on reprend les fondements de la danse hip-hop. Voilà, c'est arrivé en France en 84, c'est né au Bronx, Africa Bambaataa, lorsqu'on reprend l'historique de cette culture-là. Africa Bambaataa a créé les jam sessions, ce regroupement d'artistes, enfin on n'appelait pas ça des artistes à l'époque, mais de personnes qui, au lieu de s'affronter avec des flingues ou autre chose, l'idée c'était de s'affronter avec un art. C'était soit la danse, soit le graffiti, soit le DJing, soit le rap, qui était une manière de décliner un texte en tout cas. Et c'est vrai que y a cette idée-là, en tout cas, de transformer quelque chose de positif en négatif, de négatif en positif, pardon. Et ça rejoint en tout cas une réflexion profonde de Gorecki qui dit même dans le plus pire des hommes, il faut espérer y trouver du bon. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est fort en tout cas, c'est pas. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et c'est vrai que, voilà, c'est, malgré ça, il faut transformer toujours, essayer de transformer toujours les choses en positif, quoi. Et évidemment, on rejoint directement les fondements de cette culture-là, la danse hip-hop. Enfin, la culture hip-hop.
On va en terminer en parlant, cette fois-ci, de la danse et surtout des danseurs, hein, parce que la danse est incarnée dans des danseurs. Comment s'est opéré le choix des danseurs ? Parce que ce sera pas complètement hip-hop, hein. Vous savez aller sur les frontières.
J'ai toujours été dans le frottement, dans la rencontre de personnes. J'ai toujours travaillé dans cela. Mon travail a toujours été un croisement entre des danseurs contemporains, des danseurs hip-hop, des danseurs traditionnels indiens. Ça a façonné à la fois ma vision de la danse et ma vision personnelle. Ça va dans le sens de ce que je suis moi depuis 36 ans. Brassage culturel énorme, enfance joyeuse. Bref, donc du coup, c'est ce qui se retranscrit, en tout cas dans mon travail et dans le choix de mes danseurs. Donc là, c'est une pièce pour des... Il y a des danseurs hip-hop, il y a deux danseuses contemporaines, une danseuse traditionnelle indienne. Mais du coup, c'est arriver ensemble à créer en fait une communauté de corps dansants au service d'eux. Donc à un moment donné, quand on oublie qu'il y a une danseuse contemporaine et qu'on oublie un danseur... Quand on me dit, ah ben là j'ai vu un. Ça a été transporté, bouleversé, touché, ému, ou pas du tout, etc. Mais qu'on ne me dit pas, ah oh, la danseur hip-hop était mieux que la danse contemporaine. Voilà, enfin c'est un sacré chemin quand même. D'ailleurs, lorsqu'on est traversé pendant une heure et qu'on ne voit pas que de la danse indienne ou que de la danse contemporaine et faire ce rapprochement-là avec la danse hip-hop, je suis très content. Ça veut dire qu'on s'attache en tout cas au propos et ce qui se crée et ce qui se dégage sur le moment. Et c'est le plus important en tout cas pour moi, quoi.
Alors ici à Montpellier, vous allez jouer cette pièce dans ce qu'on appelle une friche, hein, c'est-à-dire c'est un ancien lycée, le lycée Mendès France. Le choix du lieu, est-ce que c'était si important de jouer dans un ancien bâtiment, désaffecté donc, plutôt que dans un théâtre ?
C'est important, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été une idée, une volonté partagée avec Jean-Paul Montanari et moi-même, quoi. Voilà, et on a trouvé... j'avais proposé ça à Jean-Paul, qui tout de suite a me dit « mais c'est génial », parce qu'apparemment, ça n'a jamais existé dans le cadre de ce festival. Et voilà, et pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas des œuvres... Enfin, pour moi, les œuvres doivent résonner un petit peu aussi de partout, pas forcément dans un théâtre. Alors évidemment, il existe une version théâtre de cette création, mais là, depuis que je suis arrivé, on retransforme les choses dans ce lieu-là, qu'on découvre, qu'on apprend. Alors on pourrait y mettre en tout cas plusieurs choses, plusieurs flèches à cet arc-là. L'idée que c'est de revenir un petit peu à ce qui m'a construit au départ, la rue, la danse urbaine, le quartier, la friche. Donc c'est des choses qui me sont, comment dire... Étrangère, non, c'est des lieux que je connais bien en tout cas, voilà, par le passé, et j'adore en tout cas transposer quelque chose qu'on n'attend pas forcément. Voilà. J'aime bien j'aime bien être là où on m'attend pas. Bon, beaucoup de gens le diront ça, mais c'est vrai en même temps.
Merci beaucoup Kader Atou, donc je vais essayer de le dire, parce que vous avez donné un cours tout à l'heure, c'est Symphonia Piesni Jalonic.
Ouais, c'est ça, c'est presque ça.
Ben dites-le alors.
Symphonia Piesni Dialonic.
Alors vous avez entendu des extraits de cette symphonie. Là, on s'est quitté sur cette interview avec un extrait de la bande musicale de petitehistoire.com qui suit son chemin. La 150e représentation de cette pièce précédente de Cadérattou s'est jouée à l'Opéra Bastille, c'était en février. Alors, juste pour vous montrer la différence d'univers entre son dernier spectacle et celui qui va être joué à Montpellier Danse, on écoute donc un petit extrait de petitehistoire.com.
Le CHU de Limoges, des médecins ont fait de l'excès de zèle en réponse à la demande du procureur de procéder, je cite, procéder à tout examen clinique et radiologique pour décider de l'âge de deux jeunes filles congolaises. En plus de la radio du poignet gauche, le médecin a fait, je cite, un examen approfondi du système pilon. La jeune fille a été déshabillée, le médecin a procédé à une description détaillée des poils sous les aisselles, de l'aréole des seins. La description a été écrite.
Et celui qui crie non, c'était Cadérattou, donc, qui jouait dans petitehistoire.com. Là, il se trouve qu'il ne jouera pas dans cette création, même s'il se laisse la liberté de jouer sur certaines dates. Il a affirmé en conférence de presse qu'il laisserait ses danseurs s'exprimer tout seul. Voilà, donc l'enjeu de cette pièce, à mon avis, c'est de voir comment il s'en sort avec... un morceau classique. Voilà.
Et des dates, il y en a 4 pour Montpellier Danse. Ça commence ce soir, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25. Ça se passe à 22h à l'ancien lycée professionnel Mendès France à Montpellier, donc sur l'avenue Clémenceau. Et nous avons quelques invitations à vous faire gagner également pour ce spectacle de Cadérattou. Ce sera pour le vendredi 25 juin. Pour cela, il vous suffit de nous appeler au 04 67 66 33 33. 04 67 66 33 33, un numéro que vous pouvez composer également pour gagner des places pour aller voir cette fois-ci le spectacle d'Alain Buffard dont on parlait en ouverture. Tout va bien, très très bon spectacle à voir donc. Et c'est la deuxième et dernière représentation ce soir au Théâtre de Gramont. Vous pouvez donc nous appeler pour gagner des invitations pour ce spectacle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Montpellier Danse ? Eh bien, on l'a dit, Alain Buffard à 20h à Gramont, Cadérattou à 22h au lycée professionnel Mendès France. Et puis également, si vous préférez le blanc au bleu, William Forsythe cet après-midi avec son White Bouncy Castle installé sur la scène de l'opéra Berlioz du Corum, un espèce de gros château gonflable sur lequel...
Semblable à celui qu'on voit à Palavas ou je sais pas.
Je comptais y aller ce matin, mais je n'irai que cet après-midi et on verra bien ce dont il s'agit. Mais apparemment, c'est une installation, pas une pièce chorégraphique. L'entrée est libre, en libre accès, mais petite jauge à chaque fois. Donc il faut attendre une vingtaine de minutes avant de pouvoir aller sauter sur ce château gonflable, puisque il n'y a pas de danseurs, mais c'est le public qui fait le show en fait. Voilà. C'est aujourd'hui et demain d'autres installations de William Forsythe. Qui ne présente cette année que des installations à Montpellier Danse et pas des pièces chorégraphiques. Au-delà de ce White Bouncy Castle, on peut voir également City of Abstract. Là, c'est aussi à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 juillet dans le hall du Musée Fabre, une installation vidéo. Et puis également au pavillon populaire, un certain nombre d'autres installations de William Forsythe. Voilà, 4 ou 5 installations différentes. Voilà de quoi vous faire un petit circuit tout à fait intéressant cet après-midi. Voilà, je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est François Barèze qui animera cette émission avec une interview qu'il aura recueillie dans la matinée de François Chéniaud et Cécilia Bengolea, un couple, un duo en tout cas, de chorégraphes présents cette année à Montpellier Danse pour 3 pièces, dont une création. La première, c'est Pâquerette, ce sera à voir le jeudi 24 au studio Bagoué. Ensuite, la création, c'est Castor et Pollux, un dispositif scénique assez particulier, me semble-t-il, puisque je crois que le public est allongé sur la scène de l'Opéra Comédie, tandis que les deux danseurs sont suspendus dans les cintres, si j'ai bien compris. Ce sera à vérifier donc dimanche 27 et lundi 28 juin à l'Opéra Comédie. Donc, et puis enfin, toujours Cécilia Bengolea, François Chéniaud avec Sylphide, mercredi 30 et jeudi 1er juillet. C'est à suivre demain dans le magazine Montpellier Danse. Au micro de François Barèze. Merci Vincent
d'avoir
été avec nous et puis à bientôt sur Divergence.